Seigneur, notre Dieu, si extraordinaire, comme on a tenté, qui a remporté la victoire parfaite, suprême à la croix, et de cette victoire découle toutes les victoires dont nous avons besoin. Et en réalité, le dernier chant portait à méditation, effectivement, puisque on se fait bien qu'à la croix, le Seigneur a remporté la victoire. La victoire est une victoire. Et on sait bien qu'au moment, ça bloque. C'est tellement pertinent d'avoir dit, Seigneur, il y a aussi une des victoires qui doivent être. Et parfois, des victoires doivent être remportées sur notre cœur parce qu'on résiste. Parce qu'on est lent à croire. On est lent à obéir. Enfin, on fait rien de mal, on est juste apathique, on est léthargique, c'est un trait de caractère, pas violent spirituellement. Ce sont des victoires à remporter sur nous-mêmes, des victoires sur nos cœurs, des victoires sur l'inquiétude, des victoires sur le doute, des victoires sur la tristesse, des victoires sur le laisser aller. On laisse pourrir, on laisse couler. On fait rien de mal, on laisse tout aller comme ça. On en pilote automatique entre. Et c'est vrai qu'il y a des victoires qui doivent être remportées à différents degrés, à différents niveaux, sur nous-mêmes. C'est plus difficile que des victoires soient remportées sur moi-même. Cette victoire-là, elle est plus difficile et parfois plus longue à arriver, toujours plus longue à arriver, que la victoire que le Seigneur a remportée à la croix sur les autres. Ça a été torché, excusez-moi l'expression, ça a été vite vu. Hein. Et il y a tellement de choses dans nos cœurs, mais béni soit son nom, le Seigneur est là, il nous aime, et il nous éclaire, il nous inspire, il nous travaille, et puis il insiste, il vient, il revient encore, et puis il veut le meilleur pour nous. Et puis le Seigneur ne. Merci, j'espère, enfin je dis merci parce que je le ressens, j'espère que vous le ressentez aussi. Mais le Seigneur, il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas tranquille. Et il sait travailler, il sait appuyer, il sait parfois juste mettre le doigt là, juste où il faut, et remettre le doigt parfois sur certaines choses, et puis parfois réinscrire, remettre, regraver certaines choses dans mon cœur, me rappeler des paroles parfois, même si c'est une vieille prédication qui a plus de 30 ans. Parce que quand tu nous as dit que tu avais 17 ans, on sait bien que tu n'en as pas 27. Et moi non plus. Donc, des fois, il y a des tas de choses comme ça, et le Seigneur, c'est incroyable, il est capable de faire ressurgir des choses qui étaient enfouies, on n'était même pas conscient qu'on pouvait s'en souvenir, et puis ça remonte comme ça. Mais en fait, je le savais. Et Dieu, ça fait tellement longtemps que je le sais. C'est parce que c'est un peu dur là-dedans, quoi. Mais merci, Seigneur, pour son amour et sa patience. Et en termes d'amour et de patience, eh bien, il y a bien une église envers laquelle le Seigneur n'en a pas manqué, c'est l'église de Corinthe. Et on va ouvrir ensemble la parole dans l'Épître aux Corinthiens. C'est la dernière des églises, la dernière des communautés que nous devons visiter, aborder ensemble. On a regardé toutes les lettres que Paul a adressées à des communautés, et il nous reste encore les Corinthiens. Alors, bien sûr, je le rappelle, c'est un survol des épîtres, on ne les aborde pas de façon linéaire. Quand ce sont des grandes épîtres comme les Corinthiens, là, évidemment, il y a tellement de sujets, tellement de choses à aborder. Mais nous considérons les grands principes, les points forts des communautés, des églises, leurs points forts, leurs points faibles. Et puis aussi les messages, les maîtresses que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, leur fait passer. Et puis l'ensemble de ces idées maîtresses, de ces grands principes que je ne dois jamais perdre de vue, que l'Église ne doit jamais perdre de vue, constituent toute la saine doctrine dans laquelle nous devons réellement être enracinés. L'Épître aux Corinthiens, c'est. Alors j'ai tout de suite, j'ai précisé en jaune, j'ai mis, voilà, j'aurais peut-être pu le mettre en gras. C'est l'Église, c'est tout ce qu'elle n'est pas. Tout ce qu'elle est appelée à être. Parce que vous savez que le Seigneur nous parle par moments par des exemples. La semaine dernière, on a vu les Thessaloniciens, et c'est vrai que. énormément de points. On pouvait vraiment considérer l'église de Thessalonique comme une église modèle, comme un très bon exemple. Et puis l'église de Corinthe, eh bien, c'est l'église qui devrait être, qui devrait, mais qui n'est pas, qui devrait être spirituelle, unie, disciplinée et mature. C'est tout ce qu'elle n'est pas, mais dans sa grâce et dans sa patience, le Seigneur travaille. Voilà, des cœurs qui sont très difficiles, très compliqués. C'est ce qu'elle doit devenir. On lit dans la première aux Corinthiens, et on abordera la deuxième dans un ou deux mardis. Premier aux Corinthiens, vous pouvez prendre un point tout de suite au chapitre 1er, les versets 10 à 13. Je ne vais pas faire beaucoup de lectures, bien que ce soit une longue épître. Je ne vais pas faire beaucoup de lectures, je vous ai mis beaucoup de références directement à l'écran, ce sera plus simple et ça nous fera gagner un petit peu de temps. 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 10 à 13. Paul vient à peine de finir ses salutations, et là, tout de suite, il faut qu'il entre dans le vif du sujet parce qu'il a une énorme préoccupation pour cette Église. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.
Amen.
Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. On ne sait pas qui c'est exactement. Chloé, c'est probablement une personne de l'église de Corinthe qui avait des gens à son service, certainement une personne bien placée. Et Paul a été informé par des gens de cette maison qu'il y avait de réels soucis dans l'église. Mais on n'en sait pas plus sur cette personne qui s'appelait Chloé. J'ai appris à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et un autre de Céphas, et moi de Christ. Mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Et puis, on va un petit peu plus loin, on voit que tout de suite, dès la fin des salutations dans l'introduction, il y a un réel sujet de préoccupation ici. Et on va comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés là. On prend au chapitre 3, simplement quatre versets qui sont aussi très révélateurs. Toujours la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. S'il y a bien une église, il y avait effectivement l'église des Galates. Paul leur explique clairement ce que c'est que de marcher par l'esprit, et malheureusement, reprend ceux qui marchent par la chair. Et s'il y a bien une église qui était charnelle et qui vivait dans toutes sortes de dérèglements, dans toutes sortes de désordres, c'était bien l'église de Corinthe. Et Corinthe, sans exagérer, le Corinthe, c'est vraiment du lourd en termes d'église. C'est vraiment du lourd, c'est vraiment un pavé. Excusez-moi, c'est pas méchant, mais on dirait quand même, ce sont des cas, hein. Ils sont vraiment exagérés, ils ont poussé le bouchon vraiment très, très loin. Mais le Seigneur, dans sa grâce, parce qu'il ne se repent pas de ses dons et de ses appels, il leur a parlé et parlé encore. Et on sait que le problème fondamental, c'est que les Corinthiens, ici, Paul le leur dit trois fois, quasiment au début de l'épître, pendant le chapitre 3, il leur dit trois fois, vous êtes, le problème, c'est que vous êtes charnels. Ce n'est pas pour les mêmes raisons que les Galates ou d'autres. Pour les Corinthiens, le balancier est parti très loin dans le domaine du laxisme, de la permissivité, dans le domaine du désordre. Les Galates, par exemple, c'était charnel, le balancier était parti dans un sens puisque eux, il leur fallait rajouter à l'œuvre de Christ. Puisque pour eux, Christ n'était pas suffisant, il fallait rajouter les rites de la loi, mosaïque, etc. Les fêtes, etc. Et eux, ils avaient été dans. Les Galates étaient tombés dans le légalisme. Mais les Corinthiens étaient partis, le balancier était parti, mais alors très loin dans un autre sens, où eux, ils étaient dans une espèce de permissivité, pas une espèce, mais une permissivité, une grâce laxiste, qui fait qu'on peut vraiment résumer ça. Corinthe, on peut la résumer ainsi. On était arrivé là. Corinthe, c'est vraiment l'église du désordre. Et je vais vous montrer les points sur lesquels Corinthe était réellement désordonnée. Mais le problème de fond, alors bien sûr, je ne m'étends pas là-dessus, hein, vous l'avez sous les yeux. Pourtant, Corinthe, ce n'est pas une église qui n'a pas été enseignée. Corinthe, c'était réellement une église qui avait connu un bon démarrage. Vous relisez Actes 18, elle a été fondée par Paul. Elle a été très bien enseignée. Paul leur dit lui-même, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement été établi parmi vous. Maintenant, visiblement, ils n'en ont pas perdu, mais ils en ont beaucoup abandonné en cours de route. Et il faut maintenant que l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit, dans sa grâce, tout ça et les remettre sur les rails. Mais le problème de fond, c'est qu'ils sont charnels. Être charnel, la vieille nature, l'ancienne nature, le vieil homme, l'enfance spirituelle, l'immaturité spirituelle, c'est parler comme à des enfants, etc. C'est vraiment une façon de désigner. La chair, tout cela désigne exactement la même chose. Ils sont charnels, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie chrétienne, ils sont sauvés, rachetés par Jésus, mais ils continuent de vivre leur vie en fonction des dérèglements de l'âme et des dérèglements du corps. Souvenez-vous, vous reprendrez l'épître aux Galates, le PowerPoint, je vous avais mis tous les dérèglements de l'âme et du corps notamment. De l'âme. Et ce qui va avoir de nombreuses répercussions pratiques, c'est qu'ils sont charnels. Et c'est ça, la source, l'origine du problème, qui va faire que Corinthe, on peut la résumer ainsi, est l'église du désordre. Et quand on regarde les différents désordres qui règnent à Corinthe, si ouais, ça en fait des choses à régler. Sauf si il passe de l'état charnel à spirituel, et en changeant d'état, tous les désordres se règlent et tous les problèmes se règlent. Vous allez comprendre. Quels sont ces désordres? Quelles sont les conséquences de cet état charnel? Le désordre se mesure à plusieurs degrés à Corinthe et notamment sur cinq aspects très précis. Corinthe connaît un désordre doctrinal malgré le bon démarrage et les bonnes fondations que Paul a installées, puisque le témoignage de Christ par le ministère de l'apôtre Paul avait été solidement installé. Il y a un désordre doctrinal qui s'est installé. 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, dit Paul, je vous rappelle, je ne vous fais pas chercher, vous notez, vous retrouverez chez vous, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. 1 Corinthiens 15, 34, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Il est en train de parler aux chrétiens d'une église, aux disciples. Il est en train de parler à une communauté. Il ne parle pas à des païens. Il leur dit, plusieurs parmi vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il n'y a pas de méchanceté. Paul est en train de juger personne. Il n'est pas en train de cacher. Il est en train d'éclairer et ensuite de ramener. Vous allez voir au fur et à mesure qu'il va ramener sur plusieurs points. Il va ramener le balancier pour les amener à une vie spirituelle mature et équilibrée. C'est le plus gros besoin. C'est le besoin fondamental de Corinthe. Je vous ai mis aussi Corinthiens, mais ça on pourra le voir plus tard. De Corinthiens chapitre 2, de Corinthiens chapitre 11, ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs parmi vous. De Corinthiens 11, si quelqu'un vient à prêcher un autre Jésus que celui que je vous ai prêché, et vous le supportez fort bien, un autre esprit, un autre évangile, mais vous le supportez fort bien. On a ici une première caractéristique de quelqu'un qui est charnel, c'est qu'il va très facilement se laisser ébranler dans la saine doctrine, dans les principes spirituels de la parole qui doivent régir sa vie. Et puis très facilement, il va être flottant, comme ça, un peu à tout vent de doctrine. Malheureusement, je vais passer à ce deuxième point, pardon. Malheureusement, c'était le cas à Corinthe. Et puis vient ensuite, dans l'ordre logique, viennent aussi tous les désordres relationnels. Et visiblement, autant Thessalonique avait une très bonne réputation, puisque, souvenez-vous, l'apôtre Paul leur dit, concernant l'amour de Dieu, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive parce que vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous n'avez donc pas besoin que je vous écrive au sujet de l'amour. Incroyable que Paul ait pu dire ça à une communauté. Par contre, ici, c'est tout à fait l'inverse. Malheureusement, Corinthe était connue pour son désordre relationnel. Oui, il y a des rivalités entre vous. Le chapitre 12, verset 25, quand dans son magnifique exposé sur le corps, qu'il n'y ait surtout pas de division dans le corps, et il montre en évidence que il montre de façon évidente, pardon, que toutes ces rivalités sont animées par l'esprit parti, par l'esprit de clan. Et au fur et à mesure, il va éclairer tout cela. C'est l'orgueil, la haute estime de soi qui en est l'origine. Et il est obligé d'amener des pensées qui sont extrêmement logiques, mais qu'on peut oublier souvent. En tout cas, Corinthe l'avait oublié. Et au fait, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu es produit par toi-même? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur dans sa grâce qui te l'a communiqué? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le chapitre 4, toujours le chapitre 4, quelques-uns parmi vous se sont enflés d'orgueil. Donc il y a tout ce désordre relationnel qui va aussi très loin, puisqu'au chapitre 6, si vous faites attention, je ne vous l'ai pas mis ici, il le dit aussi, je le dis à votre honte, c'est pour vous un échec complet d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient rentrés dans des tels désaccords, à tels sujets, que plutôt qu'aller dans l'amour, dans le respect, dans l'humilité, d'aller parler les uns aux autres, ils allaient régler leurs affaires devant les tribunaux humains. Et chapitre 6. Il y a parmi vous, chapitre 11, il y a parmi vous aussi des divisions. L'origine de tout cela, on le retrouve toujours, je ne m'étends pas, on a assez parlé de ces choses, c'est l'orgueil, que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que tu as quelque chose que tu n'aurais pas reçu? Et puisque tu l'as reçu, eh bien pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? D'où son enseignement ensuite sur le corps, afin de leur faire comprendre la valeur de chaque membre, et qu'il y a des membres qui sont plus petits en apparence, il y a des membres qui sont faibles. On a beaucoup parlé de ça les dimanches, pardon, mais que il y a différents membres dans le corps, mais que chaque membre est important. Chaque membre a son utilité et que aucun membre ne doit être pris de haut, aucun membre ne doit jamais être méprisé. Au contraire, si on sent que quelqu'un est plus faible, il doit être entouré de plus d'honneur. On doit en prendre davantage soin et non pas le mépriser. C'est tout l'enseignement de Paul sur le corps, parce que tous les membres du corps, quels qu'ils soient, sont importants et sont vitaux. Ils ont été très loin aussi dans ce désordre relationnel, parce que la dureté de leur cœur, ils ont même fini par remettre en cause l'autorité de l'apôtre Paul. Et autant dans la première épître que dans la deuxième épître, surtout dans la deuxième épître, l'apôtre Paul est obligé de réaffirmer et de refaire à nouveau la démonstration de son autorité apostolique. Pour vous dire qu'ils ont été loin quand même. Moi, Stéphane Brion, petit pasteur de campagne, qu'il y ait quelqu'un un jour qui vient me dire, frère, vous avez dit ça, faudrait m'expliquer, moi je suis pas d'accord avec vous, machin, etc. Oui, bah écoutez, voilà, vous voulez pas de mon autorité, pas de problème, je respecte, je comprends. Mais qu'on remette en question l'autorité apostolique de Paul, pour dire que ça avait été très très loin dans l'endurcissement des cœurs, l'esprit de jugement et la remise en question de l'autorité spirituelle. Et Paul leur dit, chapitre 4, verset 3, écoutez, il m'importe peu d'être jugé par vous. Je vous recommande vivement de ne porter aucun jugement sur quoi que ce soit avant le temps. Et puis, il y a aussi, j'avance, ah, eh oui, Il y a aussi du désordre moral, il y a de l'impudicité. Impudicité, on l'avait vu dans les épîtres de l'Apocalypse, Thyatire, Pergame, Sardes. Le terme impudicité, qui est la traduction du grec dans l'original pornéia, qui a donné notre mot pornographie, qui désigne de façon générale l'immoralité sexuelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ville de Corinthe était connue pour sa débauche, elle était connue pour sa vie de luxure. Et on avait même, pour vous dire à quel point l'Église, par l'Église, pardon, la ville de Corinthe était connue pour sa débauche, c'est qu'on avait même inventé un terme, le terme corinthisé. C'est-à-dire que on disait, ben, tiens, allez, ce soir, on va aller corinthiser. Ça signifiait qu'il allait y avoir énormément de débauches, d'orgies et d'impudicité. Et le problème des Corinthiens, avait-il expérimenté une authentique vie de sanctification? Oui, peut-être. Et s'était-il relâché? Ou peut-être avait simplement emmené avec eux, de la même façon que les Hébreux dans le désert marchaient en direction du pays promis, mais avec la mentalité de l'Égypte et le cœur tourné vers l'Égypte, les cultes de l'Égypte, les dérives de l'Égypte, l'impudicité de l'Égypte. Ben, il est très probable que les Corinthiens, eux, ils vivaient avec ces dérèglements, ils avaient emmené les principes de leur ancienne vie là devant, dans leur pratique, et c'est ce qui faisait aussi malheureusement leur réputation plus que douteuse. Beaucoup avaient gardé, malgré leur engagement envers le Seigneur, avait gardé des habitudes morales douteuses, au point que cette église, si un jour vous avez lu ça, peut-être, elle avait une telle réputation. Chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul leur dit: on entend généralement dire que, et là ce n'était pas des oui-dire infondés, on entend généralement dire que bien chez vous une immoralité sexuelle telle qu'on ne la mentionne même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a même la femme de son père. Ça jette un froid, on n'aime pas trop ce texte. Pourtant, c'est écrit. Et malgré cela, dit Paul, vous êtes enflé d'orgueil. Chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et ici, cette image de levain, dans la Bible bien-aimée, le levain, sauf une fois, sauf en Matthieu 13, où le Seigneur va mettre en évidence le levain, il va prendre cette image comme la bonne influence du royaume de Dieu. C'est la seule exception. Sinon, dans l'ensemble de la parole, dans tous les textes anciens comme Nouveau Testament, le levain est une image du péché. Et la pâte, c'est cette pâte nouvelle, c'est une image de la vie. Et il dit: ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire que c'est l'image de ce péché qui est sournois, qui est insidieux, qui est caché, qui n'est pas mis en lumière. Et puis, ben forcément, ça fait lever toute la pâte, c'est-à-dire que ça va avoir des répercussions, ça va avoir des conséquences au niveau de la qualité de vie de l'Église, parce que le Saint-Esprit est attristé par des situations de péché. Et puis, une fois que vous avez toléré ça, ah, c'est le principe du péché, il est insatiable. Vous allez tolérer ça. Et une fois que vous avez toléré ça, comment un jour on en est arrivé à ce que l'un est la femme de son père et que personne, alors que tout le monde le savait, personne n'ait rien dit, qu'il n'y ait pas eu de mise en discipline, qu'il n'y ait pas eu de séparation. À un moment, l'apôtre Paul, dans ce contexte, leur dit: mais ôtez le méchant du milieu de vous, exercez de la discipline. Parce qu'une personne qui ne veut pas se repentir, bien sûr, priorité, c'est toujours qu'une personne, elle se repente. Et puis que sa vie soit à nouveau en règle devant Dieu. Le but, c'est toujours la restauration, la repentance, la restauration, le salut, la réintégration, etc. Mais une personne qui refuse de se repentir et qui maintient, là, on n'est pas dans le si quelqu'un a péché. Non, 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 non. Là, si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, il pardonnera, il purifiera tout péché. Il est question de situation de péché. qui sont sciemment entretenus par des gens qui font bonne figure, qui font semblant d'eux, qui font semblant que, Paul le dit au chapitre 6, ah, il s'agit de gens qui se nomment frères, mais qui pratiquent. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait un exercice public même de la discipline et qu'il soit retranché. Bien évidemment, c'est clair à la lumière des Écritures, le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Mais quand on a permis, souvenez-vous, l'Épître aux Romains, ce à quoi tu te soumets, c'est ce qui va prendre autorité sur ta vie. Et alors, on tolère un peu, et un peu, et un peu, et un peu. Et le péché, lui qui est insatiable, va à nouveau amener toutes sortes de dérèglements, de désordres, et ce qui va réellement attrister le Saint-Esprit et affecter l'état général de l'Église. Alors oui, comme dit l'apôtre Jean, nous péchons tous, nous péchons tous. On a tous à un moment glissé et puis on a sali notre robe. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de gens qui vivent dans des situations de péché, qui, soi-disant, se nomment frères, mais qui, en réalité, excusez-moi, c'est pas qu'ils ont taché leur robe, non, non, c'est qu'ils vivent couchés dans la boue. Et là, c'est absolument pas la même chose. Vous comprenez bien le contexte, quand j'insiste, dans lequel Paul est en train de parler. Donc, il y a ce désordre doctrinal, relationnel, moral, j'avance, il y a aussi ce désordre dans l'exercice du culte. Quand vous vous réunissez, chapitre 11, verset 20, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, mais chacun s'empresse de prendre son propre repas, dit Paul, l'un avare et l'autre est ivre. De quoi il parle, Paul? Mais sérieusement, c'est bon, quoi cette église? Il faut comprendre que à cette époque-là, à Corinthe, les agapes ne se faisaient déjà, ils avaient quand même cette tendance à vivre selon les coutumes de leur ancienne vie, ça les influençait encore beaucoup, il manquait terriblement de sanctification et de changement. Mais il faut comprendre que dans leur pratique, les agapes se faisaient pas comme nous les faisons. Ça se faisait pas une fois de temps en temps, on reste ensemble après le culte, on sort les tables et on reste super bien, c'est sympa, etc. Eux, en fait, ils mélangeaient tout. Il y avait le culte, ils se réunissaient, et puis ils mangeaient, et puis ensuite ils prenaient la scène, après avoir mangé. Alors ben, il y avait quelqu'un qui avait faim, qui n'avait pas assez, mais il y en avait qui s'empressaient de manger, parce qu'ils ne voulaient surtout pas partager, c'est ça que ça veut dire. Et puis il y en avait un, pendant le temps de l'agape, et ben, il avait un peu trop abusé de la vie, excusez-moi l'expression, l'apôtre Paul est clair, non, non, mais c'est exactement ça. Et il y en a un, excusez-moi, enfin un ou plusieurs, ils arrivaient au moment de la scène. Ils cherchaient la table parce qu'ils n'avançaient pas droit, quoi. Donc c'était vraiment une honte totale. Et ils étaient réellement arrivés à ce genre de dérèglement, autant influencés par la débauche de leur ancienne vie, mais aussi par tellement de légèreté. Et c'est pour ça que leur attitude étant si grave, autant moralement que dans l'exercice du culte, ça c'était réellement, j'ai mis ici, une offense à la personne et à l'œuvre de Christ, c'est à ça qu'ils étaient arrivés, et c'était un mépris de l'Église qui est le corps. Vous prenez la scène sans discerner le corps du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est écrit, et je précise, dans ce contexte, et dans ce contexte uniquement, Paul discerne, dans ce contexte très précis, une cause de maladie et de non-guérison. Bien sûr, on ne va pas aller voir quelqu'un qui est malade et puis la maladie qui dure, et puis peut-être même des chrétiens qui, un jour, parce que c'était leur temps, sont morts de maladie en disant, oh, ben forcément, ils devaient être dans le péché. Ou forcément. Parce que ça aussi, on a entendu dans les églises des textes sortis de leur contexte pour aller accuser les uns et les autres de péché, parce que, etc. Non, 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 il y a rien de tout ça. Le psaume 103 est clair. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais ici, on est dans un cas de figure très spécifique où les Corinthiens étaient arrivés à un tel mépris de l'œuvre et de la personne de Jésus, où la scène était finalement un rituel quelconque, totalement banal. Ils avaient perdu toutes les réalités spirituelles de la croix, les réalités spirituelles de la scène dont on a parlé les dimanches. Et ce mépris aussi pour le corps qu'est l'Église, mépris pour le Seigneur, mépris pour son œuvre, mépris pour le corps, et c'était pour le Seigneur, j'insiste, à situation extrême, mesure extrême, pour essayer de les réveiller et d'attirer leur attention. Et Paul, par révélation, leur dit à eux, mais leur dit à eux seulement dans un contexte extrême, j'insiste, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et que beaucoup sont morts, parce que le but était de ramener les Corinthiens, de leur faire prendre conscience et de les ramener à respecter le caractère solennel de la scène. Et j'ai mis ici les réalités spirituelles qu'elle contient. Désordre dans l'exercice du culte, désordre aussi dans l'exercice des dons spirituels. C'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit aussi désordre dans la pratique des pneumatikas. On verra tout ça, on étudiera le Saint-Esprit sur l'année 2026-27. On étudiera ensemble les différentes facettes du ministère de l'Esprit dans nos vies, son œuvre en nous, son œuvre sur nous, la sanctification, les manifestations ponctuelles, surnaturelles, les dons de grâce, les charismas, les pneumatikas, les dons spirituels, c'est-à-dire les dons ponctuels, surnaturels de l'Esprit, comme la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. On verra tout ça. Et ils étaient, le parler en langue et compagnie. Mais ils étaient arrivés dans une pratique anarchique et déséquilibrée des dons spirituels, au point que faut vraiment comprendre, si on veut comprendre ce que Paul dit, où il veut en venir et ne pas en faire un mauvais usage de ce qu'il dit, faut vraiment comprendre le contexte des Corinthiens. Il faut comprendre jusqu'où ils avaient été. Je ne juge personne, j'ai parfois entendu des gens, des chrétiens, même des pasteurs, dire, mais oh, c'est beaucoup. Il ne faut pas parler en langue dans l'Église. Si tu parles en langue, c'est ton problème et tu veux ça chez toi. Il ne faut pas parler en langue dans l'Église. Aspirez aux dons spirituels, n'empêchez pas de parler en langue. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Mais, ah oui, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Parce que les Corinthiens étaient arrivés dans des démonstrations, c'était exubérant, c'était totalement disproportionné, au point qu'il n'y avait même plus de place pour l'enseignement intelligible. Il n'y avait même plus de place pour la prédication. C'était, pardon, c'était le marché couvert, c'était un bazar innommable, Corinth. C'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit, il n'est pas en train d'interdire de parler en langue. Là, sa place, simplement, il n'est pas en train de dire que ça ne sert à rien. Non, non, c'est pour ça qu'il dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Pourquoi? Ben, parce que de toute façon, si tout le monde parle en langue et qu'il n'y a pas de place pour l'intelligible, ben là, c'est normal, évidemment, il n'y aura plus aucun enseignement, il n'y aura plus aucune édification. Et tout était devenu anarchique, et on peut dire que les Corinthiens étaient arrivés dans l'exubérance, même ils étaient arrivés à du mysticisme. Mais si on ne comprend pas bien le contexte de Corinthe, on prend des paroles de l'apôtre Paul, et je suis désolé, les pasteurs n'ont pas compris l'épître aux Corinthiens, et ils ont sclérosé leurs églises par rapport à la vie de l'esprit. Parce qu'ils avaient peur eux-mêmes, j'ai pas peur de dire qu'ils avaient peur, au lieu d'emmener l'Église dans une connaissance et une pratique équilibrée de la Pentecôte, avec toutes les facettes du ministère du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Je vais vous en parler, je pense, on en a à peu près pour 6 mois cette année sur la question du Saint-Esprit. Vous allez voir à quel point c'est riche, c'est bénissant. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Mais il faut absolument comprendre qu'il y a réellement cette richesse dans la personne du Saint-Esprit et que nous devons arriver, bien-aimés, à un équilibre, à une Pentecôte qui soit sage et équilibrée. Il n'y a pas à avoir peur parce qu'il n'y a pas de gens plus équilibrés que les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et quand il y a des manifestations qui étaient décalées et qui ont fait peur, qui ont fait tellement peur que ça a amené les autres à tout verrouiller, tout interdire. Et tu parles pas en langue, toi, tu dis, non, non, c'est bon, gardez ça pour chez toi, puis encore. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que Paul dit et à qui il le dit. Par peur, on a tout éteint. Alors qu'en réalité, Paul n'est pas en train d'éteindre ça. Paul est en train simplement de ramener un balancier qui, j'ai pas peur de le dire, était même parti, pas seulement dans l'anarchie, mais parti dans du mysticisme. Est-ce que c'est charnel? On ne sait pas si ça se faisait à Corinthe, mais on sait que ça existe dans des milieux évangéliques. Ah ben oui, vous avez des gens, à peine vous priez pour eux, est-ce que c'est ça? Tout ça, c'est charnel, c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Ce sont des gens qui aiment vivre ça et qui sont en quête de pseudo-spirituel et de mysticisme et qui sont en quête de sensations. Et le Saint-Esprit, par son action dans nos cultes, bien-aimés, dans nos réunions, si on lui laissait vraiment la place, les gens ne tomberaient pas. Les gens sont relevés par le Saint-Esprit. Et là, vous ne dites pas amen. C'est parce qu'il est 8h05, je sais, donc j'ai bien compris. Désordre dans la pratique. Des dons pratiques anarchiques et mystiques même, je pourrais le rajouter la semaine prochaine. Mais l'apôtre Paul est très clair. Alors comment les amener à l'unité? Comment les amener à la discipline ecclésiale? Comment les amener à l'équilibre dans la pratique des cultes? Comment est-ce qu'il va les faire passer de l'état charnel à l'état spirituel? Qu'est-ce qu'il leur manque? Eh bien, une vie centrée, ça je le reprendrai la semaine prochaine, une vie centrée et calquée sur Christ, voilà un des grands points qui concerne n'importe quel disciple, un grand principe spirituel qu'on ne doit jamais perdre de vue. Une vie centrée et calquée sur Christ, ça leur faisait désespérément défaut. Une profonde conscience de ce que Dieu a fait, non pas pour eux, mais ce qu'il a fait pour eux. Le temple du Saint-Esprit, avec la responsabilité engendrée par une telle grâce, je l'aborderai aussi la semaine prochaine, je m'aperçois que c'est plus long que ce que je pensais, désolé. Et puis, leur apprendre aussi à renoncer au péché, avec évidemment tous les choix stratégiques, les prises de position qu'on avait vues dans les autres épîtres. Et on terminera aussi, dans le programme de la semaine prochaine, on terminera par ce merveilleux chapitre d'1 Corinthiens 13, l'amour, le fruit de l'esprit qui est effectivement le signe de la maturité spirituelle. Mais il faut que j'en reste là pour ce soir, parce que sinon après je m'énerve. Donc la suite, mardi prochain. Et on verra aussi, il y en a encore pour un ou deux mardis, on travaille. Donc beaucoup de choses à poser, à comprendre. On va terminer ces instants par la prière. Merci pour votre attention.